Chapitre 6. Le lendemain du jour où M. et Mme de Préfond étaient arrivés à Beaulieu, et fort à point pour jeter un peu d'intérêt dans l'existence de la petite baronne, qui commençait déjà à trouver le séjour à la campagne vertueusement ennuyeux, M. d'Herblay, accompagné de sa sœur, se présenta au château. Assis sous une grande tente de coutils rayés gris et rouge, les habitants de Beaulieu jouissaient du charme d'une de ces belles journées d'octobre, dernier sourire de l'année, prêt à devenir triste et glacé. Dans les massifs du parc, les oiseaux, trompés par la chaleur du soleil, s'étaient remis à chanter comme en été. Et sur le sable brillant de la terrasse, deux merles au bec jaune se disputaient en sifflant des miettes de pain que le marquis avait jetées par la fenêtre de la salle à manger. La marquise, enveloppée dans ses châles, engourdie par l'air doux, écoutait d'une oreille distraite Claire et la baronne qui causaient, accoudées à la balustrade de granit rose. Le baron, gravement étendu dans un fauteuil à bascule, poussait vers le ciel bleu, avec une lenteur calculée, les bouffées de son cigare. Le marquis crayonnait sournoisement sur une page de son carnet la silhouette des deux jeunes femmes se détachant, élégantes et gracieuses, sur le fond clair de l'horizon. Un calme profond entourait ce petit coin, et peu à peu une lassitude délicieuse, invincible, s'emparant de tout l'être, alanguissait le corps et endormait la pensée. Le pas du domestique faisant crier le sable de l'allée réveilla tout le monde de cette somnolence physique et morale. La marquise ouvrit les yeux. Claire et la baronne se retournèrent, cessant de regarder vaguement la vallée. Le marquis cacha avec précipitation son carnet dans sa poche. Seul le baron, avare de mouvements inutiles, se borna à incliner légèrement la tête. « Monsieur et Mademoiselle d'Herblay demandent si Madame la marquise reçoit, » dit le valet de pied. À ces mots, Claire fronça imperceptiblement son fier sourcil. Le nom de l'homme, par lequel instinctivement elle se sentait poursuivie, prononcé là, chez elle, lui déplut. Elle eut comme un pressentiment que cet étranger aurait une influence sur sa vie, et d'avance, elle se sentit pleine de révolte. Une amertume soudaine troubla son cœur. L'idée confuse de son abandon était déjà cependant au fond d'elle-même. Et elle se demanda comment M. d'Herblay, après ses démonstrations passionnées, si timides qu'elles fussent, osait se présenter au château. Bachelin, il est vrai, avait annoncé sa visite. Il s'agissait d'une sorte de conciliation sur le terrain des affaires. Mais la question d'affaires pouvait n'être qu'un prétexte. Cet homme était-il si hardi, la voyant momentanément délaissée par le duc, de concevoir la pensée de s'approcher d'elle? Toutes ces réflexions, encore fort obscures, passèrent en une seconde dans son esprit et furent le point de départ de son aversion pour Philippe. « Recevez-le, ma tante, recevez-le !» s'était écriée la baronne. « Je suis si curieuse de le voir, ce maître de forge. Il va nous amuser et nous ferons bavarder sa sœur sur ce qui se passe dans le village. Elle a peut-être le costume du pays. Oh, que ce serait gentil !» « Mais, ma chère enfant, je ne demande pas mieux que de recevoir, » répondit la marquise en souriant. Et se tournant vers le domestique qui attendait, immobile, « Priez monsieur et mademoiselle d'Herblay de bien vouloir venir jusqu'ici. » Il y eut un instant de silence, puis la large porte-fenêtre du salon s'ouvrit, et Philippe, accompagné de Suzanne, apparut sur le perron. Un rayon de soleil dorait sa brune et mâle figure. Il se montrait dans toute sa vigueur, tranquille et sévère. Serré dans une longue redingote noire, il semblait plus grand qu'il n'était en réalité. Sa sœur, vêtue d'une très simple robe de drap bleu foncé, se pressait timidement contre lui, le visage animé par l'émotion, inquiète et pourtant résolue, attachant sur son frère le regard de ses grands yeux, comme pour lui donner du courage. La marquise s'était levée pour aller au-devant des visiteurs. Philippe, très respectueusement, se courba devant elle en balbutiant quelques paroles entrecoupées dont la confusion amena un sourire sur les lèvres de la grande dame. Puis, comme pour couper court à la gêne du jeune homme, avec une grâce charmante, prenant la main de Suzanne, « Dites à votre frère, mon enfant, dit Madame de Beaulieu, qu'il est le bienvenu chez moi. » Philippe releva son front penché et avec un accent de profonde gratitude. « Je ne sais comment vous remercier, madame la marquise, » dit-il, « de l'accueil si bienveillant que vous faites à ma sœur. C'est une enfant qui a grandi auprès de moi sans les soins d'une mère. Elle a besoin de leçons et de conseils. Elle ne saurait les trouver meilleurs qu'auprès de vous si vous voulez bien lui faire la faveur de vous intéresser à elle. » Madame de Beaulieu regarda plus attentivement Suzanne et fut touchée de la grâce naïve et tendre de la jeune fille. « Venez ici que je vous embrasse, ma chère belle !» Et, effleurant de ses lèvres les cheveux blonds de Suzanne, « Voilà la paix signée sur le front de cet enfant !» ajouta la marquise en se tournant vers Philippe. « Tous vos péchés vous sont remis, mon voisin. Maintenant, venez que je vous fasse faire connaissance avec ma famille. » Et, désignant de la main Octave qui s'avançait vers eux, « Le marquis de Beaulieu, mon fils, » dit-elle. « La présentation est bien inutile, ma mère, » dit avec rondeur le marquis en tendant la main à Philippe. « Monsieur d'Herblay et moi, nous nous sommes déjà trouvés en présence. Diable, cher voisin, vous avez de bonnes jambes et vos lièvres que je manque si bien ne courent pas si vite que vous quand vous ne voulez pas qu'on vous rattrape. » « Excusez-moi, monsieur le marquis, » répondit Philippe en souriant, « si je ne vous ai pas dit qui j'étais. Vous ne me paraissiez pas animé de sentiments fort sympathiques à mon égard, et j'ai craint de n'être pas très bien accueilli par vous si je trahissais mon incognito. » « Eh, parbleu, je ne vous connaissais que par les difficultés que nous avions eues ensemble. Maintenant, c'est autre chose, et j'espère que nous serons bons amis. » « Mais faites-moi donc le plaisir, je vous prie, de me présenter à mademoiselle d'Herblay. » Le charme de Suzanne agissait. Empressé, attentif, Octave s'était approché de la jeune fille. Madame de Beaulieu, se tournant alors du côté de Philippe et le désignant à la baronne et à Claire, « Monsieur d'Herblay, le maître de forge de Pont-Aven. » Puis, montrant les deux jeunes femmes, « La baronne de Préfond, ma nièce, et mademoiselle de Beaulieu, ma fille. » Une rougeur brûlante monta au visage de Philippe, et sans oser fixer ses yeux sur celle qu'il adorait, il s'inclina si profondément qu'on eût dit qu'il allait s'agenouiller. « Mais, ma chère, c'est un monsieur !» chuchota la baronne à l'oreille de Claire. « Moi qui me le figurais les bras nus, avec un tablier de cuir sur les genoux et de la limaille dans les cheveux. Dieu me pardonne, il est décoré, et le baron ne l'est pas. Il est vrai que sous le régime que nous subissons, enfin, c'est bien extraordinaire. Il ne manie donc pas le marteau. Regarde-le donc, c'est incroyable. Il est très bien, il a des yeux superbes. » Claire, qui jusque-là avait détourné ses regards, fixa presque durement Philippe. Elle était en proie à une sourde colère. Elle eût voulu trouver des paroles blessantes et des regards offensants pour les adresser à cet audacieux. Dans sa vigoureuse carrure, elle le trouvait vulgaire. Tout en lui la choquait jusqu'à sa mise sombre et sévère qui lui donnait un air digne et sérieux. En même temps, comme dans une rapide vision, la figure du duc passa devant ses yeux. Elle distingua nettement la tournure élégante et un peu grêle de Gaston, avec son visage allongé, ses cheveux châtains, ses yeux bleus et sa bouche spirituelle, de chaque côté de laquelle tombaient de longues moustaches blondes. Entre Philippe présent et le fantôme du duc, le contraste était complet. L'un incarnait bien dans sa robuste personne la solidité saine de la bourgeoisie. L'autre était le type achevé de la grâce délicate et légèrement affaiblie de la noblesse. Sous le regard de la jeune fille, Philippe était resté interdit. Ses pieds semblaient avoir pris racine dans le sol. Profondément troublé, il tenta d'échapper à l'examen hostile de ses yeux. Il voulut faire deux pas vers le marquis qui causait avec Suzanne, afin de se rattacher à quelqu'un qui lui fût bienveillant. Il ne le put pas. Il jeta machinalement un regard sur sa personne et brusquement, il se vit lourd, commun et inélégant. Avec une sourde amertume, il se compara aux deux jeunes gens qui marchaient devant lui dans la grâce libre et simple de leurs vêtements du bon faiseur, et sa redingote de drap noir d'une coupe provinciale lui parut hideuse. Il pensa qu'il devait être grotesque avec son chapeau de haute forme à la main, et il souffrit horriblement. Il eut, dans ce moment-là, donné 10 ans de sa vie pour être vêtu et avoir l'air dégagé comme le baron et Octave. Il se dit que jamais Claire ne pourrait oublier l'aspect sous lequel il s'était présenté pour la première fois à elle, et que, pour toujours, il resterait dans l'esprit de la jeune fille un souvenir qui lui serait défavorable. Il mesura là nettement la distance qui existait entre Mademoiselle de Beaulieu, même ruinée, et le maître de forge de Pont-Aven. Et avec un profond désespoir, il se reprocha d'avoir été assez fou pour lever les yeux plus haut que son ambition ne pouvait jamais espérer atteindre. La voix d'Octave l'arracha à son étourdissement. « Mon cher monsieur d'Herblay, nous avons ici quelqu'un qui, sur la question industrielle, pourra vous tenir tête, dit le marquis. C'est mon cousin, monsieur le baron de Préfond, un savant. » « Dites un homme d'études, mon cher Octave, interrompit avec douceur le baron. Le champ de la science est trop vaste pour que j'aie une autre prétention que celle d'en avoir exploré une toute petite partie. » Philippe, revenant à lui, chercha des yeux Mademoiselle de Beaulieu. Gracieuse et lente, elle s'était éloignée et marchait le long de la terrasse aux côtés de la baronne. Du bout de son ombrelle de soie rouge, elle frappait machinalement les fleurs d'un rosier grimpant qui enlaçait ses rameaux aux balustres de pierre. Le maître de forge poussa un soupir et, se détournant de ce charmant spectacle, « Ce n'est pas la première fois, dit-il, que j'entends prononcer le nom de monsieur de Préfond. » Et comme le baron faisait un geste de protestation polie, « Monsieur n'est-il pas l'auteur d'un très considérable travail sur la sémantation ? Je me suis beaucoup occupé moi-même de cette importante question et j'ai lu avec la plus vive curiosité le mémoire que vous avez adressé à l'Académie des sciences. » « Oh, oh, baron ! » s'écria gaiement Octave, « vous ne vous attendiez pas à être si connu dans nos montagnes ? Allons, vous êtes en route pour la célébrité, mon bon. Votre nom a pénétré jusqu'au fond des campagnes et à votre vieille devise « Fortis gladio », il faut ajouter « et pena ». Et ne croyez pas que je me moque de vous. Je vous imiterai si j'en étais capable. » Mais le baron avait bien souci de ce que pouvait dire le marquis. Ravi de rencontrer un auditeur en état de le comprendre, il s'était lancé dans une dissertation très ardue sur la façon de fondre l'acier. Et l'intervention de la baronne elle-même ne l'aurait pas détourné de son sujet. Sa raideur anglaise avait fait place à un laisser-aller plein d'expansion. Il tapait dans ses mains en imitant le bruit des machines pour appuyer sa démonstration. Et animé, gesticulant, il avait pris M. d'Herblay par le bras comme pour être bien sûr que celui-ci ne lui échapperait pas. Mais Philippe n'avait nulle envie de se soustraire à l'envahissante familiarité de son interlocuteur. Bien au contraire, il le poussait, heureux de trouver un allié imprévu dans cette maison où il se sentait si mal à l'aise. Et le baron allait, enchanté, parlant d'abondance et appelant déjà Philippe, « mon cher monsieur », ce qu'il n'eût certes pas fait pour tout autre au bout de 3 mois de relations suivies. Mais, en un instant, leurs communes préoccupations scientifiques les avaient rapprochés et liés comme 2 francs-maçons qui ont échangé mystérieusement des signes en se touchant la main. « Et vous extrayez vous-même le minerai ? Comme votre exploitation doit être intéressante, disait le baron. Il faudra que je descende à Pont-Aven demain matin pour que vous me fassiez visiter vos ateliers. Vous devez occuper beaucoup de monde. » 2000 ouvriers. C'est admirable. Et combien de hauts fourneaux ? 10 qui n'éteignent jamais leur feu d'un bout de l'année à l'autre. Vous verrez mon marteau-pilon. Il pèse 40 000 kilos et se manœuvre avec une telle précision que vous le feriez descendre sur un œuf et le toucher sans casser la coquille. Mais avec un pareil instrument, vous pouvez faire concurrence au creusot lui-même. Parfaitement, et nous faisons en petit ce qu'il fait dans des proportions immenses. Mon cher monsieur, c'est une bonne fortune pour moi de vous avoir rencontré, s'écria joyeusement le baron. Je voulais partir à la fin de la semaine avec la baronne pour aller en Suisse, mais au diable le voyage. Je reste, vous comprenez bien, nous allons faire des expériences. Avez-vous un laboratoire ? Oui, vous êtes chimiste ? Parfait, vous êtes un des hommes les plus agréables que j'ai encore rencontrés. » Et prenant Philippe par le bras, le baron commença à arpenter la terrasse. « Ah ça, qu'a donc mon mari ? » dit la baronne en s'approchant avec Claire. Il a, ma chère cousine, répondit gaiement Octave, qu'il est parti sur son dada favori, prenant en croupe M. d'Herblay.
Eh bien, ils vont aller loin comme ça, si on n'arrête pas le baron.
Et pourquoi l'arrêterait-on, fit le marquis. Est-ce que vous trouvez mauvaise cette confraternité de M. d'Herblay et de Préfond? Votre mari, ma chère amie, descendant des Preux, incarne dans sa personne 10 siècles de grandeur guerrière. M. d'Herblay, fils industriel, représente un siècle unique, celui qui a produit la vapeur, le gaz et l'électricité. Et je vous avoue que, pour ma part, j'admire beaucoup le bon accord soudain de ces deux hommes qui confondent, dans une intimité née d'une mutuelle estime, ce qui fait un pays grand entre tous, la gloire dans le passé et le progrès dans le présent.
Octave, mon ami, dit la baronne, on voit que vous êtes avocat, vous parlez très bien. Mais pour le fils de votre père, laissez-moi vous dire que je vous trouve un peu démocrate.
Hé, cousine, reprit en riant le jeune homme, la démocratie nous envahit. Tâchons de constituer une aristocratie dans la démocratie même. Pour y arriver, prenons la médiocrité comme niveau et au-dessus d'elle, mettons tout ce qui aura du mérite. Nous fonderons ainsi l'aristocratie du talent, la seule qui soit digne de succéder à l'aristocratie de naissance. D'ailleurs, en agissant ainsi, nous ne ferons qu'imiter ce que firent nos ancêtres. Vous figurez-vous que les fondateurs de nos maisons étaient nés nobles? Ce fut leur courage qui fut la cause de leur élévation au-dessus des autres hommes. Le premier des Préfonds s'appelait tout platement Gaucher, ce qui, sans doute, ne l'empêchait pas d'être adroit, car il passe pour avoir été un rude soldat. Anobli pour ses faits d'armes et enrichi par son butin, il prit le nom de sa terre en revenant de Palestine. Et c'est par la grâce du capitaine Gaucher, ma chère, que vous êtes baronne. Pourquoi dénierions-nous aujourd'hui à des hommes qui valent peut-être votre aïeul le droit de sortir du commun? Jadis, on disait « honneur aux plus braves ». Maintenant, disons, place aux plus intelligents.
Bien pensé et bien parlé, monsieur le marquis, et je prie madame la baronne de m'excuser si je me prononce contre elle, dit une voix sonore derrière un massif. Et Bachelin, très rouge, le chapeau à la main, sa serviette bourrée de papier sous le bras comme d'habitude, apparut au coin de la terrasse.
Hé, Bachelin, vous arrivez à point, s'écria la baronne gaiement.
« Ah, vous voilà bien, vous autres Robins, vous êtes tous du tiers état. C'est à votre profit qu'on a fait la révolution. Mais vous apparaissez comme un diable qui sort d'une trappe. Par où êtes-vous donc venu ?»«
J'ai traversé le parc, je viens de la Varenne, et j'ai laissé mon cabriolet à la petite porte. Mais pardon !»
Et se tournant vers madame de Beaulieu, qui s'approchait avec Suzanne, « Madame la marquise, tout mon respect. Mademoiselle Suzanne, mes hommages. » Il fait aujourd'hui une chaleur extraordinaire. Je suis venue en hâte. Je tenais à être ici en même temps que M. d'Herblay. Mais un acte très important à signer m'a retenu. Un acte qui m'a causé bien des regrets, madame la marquise. Il s'agit de la vente de la Varenne.
Ah, les Desfrêles ont enfin trouvé un acquéreur ? Interrogea le marquis.
Oui, un acquéreur, soupira Bachelin, et qui a payé un prix de convenance, je vous en réponds. Mais il tenait tout particulièrement à cette terre, et il en a donné au moins un tiers de plus qu'on en aurait pu trouver, même en la morcelant. C'est un gros fabricant de Paris. Il m'a dit même avoir l'honneur de connaître la famille de madame la marquise. C'est sans doute la raison qui lui a fait rechercher le voisinage de Beaulieu.
« Et peut-on savoir le nom de ce monsieur ?» demanda la marquise avec indifférence.
« Il s'appelle Monsieur Moulinet. » répondit tranquillement le notaire.
Bachelin ne se doutait certes pas de l'effet qu'il allait produire en prononçant le nom de l'acquéreur de la Varenne. Mademoiselle de Beaulieu se leva brusquement pendant que la baronne, frappant vivement ses mains l'une contre l'autre, s'écriait
« Le père d'Athénaïs !»
Monsieur Moulinet avait effectivement avec lui une jeune personne qu'il nommait Athénaïs, ajouta le notaire. Le domaine a été acheté pour elle et afin de figurer parmi ses propres le jour de son mariage. C'est 30 000 livres de rente en sac, et les bourses sont susceptibles d'augmentation.
« Ah, c'est trop fort! Les voilà vos voisins !» reprit la baronne. « Et Monsieur Moulinet va jouer au seigneur châtelain. Le pauvre homme, il aura l'air de son jardinier. »«
Il est, dit-on, fort riche, » interrogea Bachelin. Excessivement riche, répondit la baronne, ridiculement riche.
Eh bien, Octave, voilà où conduisent vos théories, mon cher. La voilà l'aristocratie de l'intelligence. Monsieur Molinet en est un des plus beaux représentants. Les d'Estrel, qui ont donné à la France 10 maîtres de camp, 2 amiraux, un maréchal et plusieurs ministres d'État, qui ont les portraits de leurs ancêtres à Versailles et leurs noms à toutes les grandes pages de notre histoire, sont mis hors de leur château par un fabricant de chocolat qui n'a jamais rendu service pour 1 centime à sa patrie et dont le nom ne figure que sur les prospectus qu'il fait distribuer au coin de la rue. Voilà votre démocratie, mon cher. Tenez, ne me parlez pas d'un pays où de pareilles abominations peuvent se commettre. C'est un pays perdu.
Calmez-vous, baronne, dit Octave. Je trouve déplorable, comme vous, que les d'Estrel soient dépossédés de leur château, mais franchement, que pouvons-nous y faire? Faut-il prendre à M. Moulinet son argent pour enrichir nos amis? Ce serait un peu bien arbitraire. Et à moins de lui chauffer les pieds par-dessus le marché, je ne vois point ce qu'on pourrait lui faire de pis.
« Laissez-moi tranquille, vous êtes insupportable !» s'écria Madame de Préfond. « Tenez, je crois que vous dites tout cela pour me taquiner et que vous n'en pensez pas un mot. »
Et prenant le bras de la marquise, elle fit quelques pas au-devant du baron qui revenait avec Philippe. Claire était restée en arrière, immobile et pensive. La brusque apparition de M. d'Herblay et d'Athénaïs Moulinet dans sa vie si rigoureusement fermée la troublait étrangement. Élevée dans ce grand monde, autour duquel la fierté rigoriste de ses aristocratiques habitants a tracé des barrières infranchissables, elle assistait, avec une amère stupéfaction, à cette violation inattendue de son intimité. Du moment que M. d'Herblay entrait à Beaulieu si facilement et était, de prime abord, traité sur un pied d'égalité, il lui paraissait que l'antique maison devenait banale comme la rue. Elle résolut de réagir contre cette facilité un peu vulgaire avec laquelle tous les hôtes du château se prodiguaient envers des étrangers. Et les voyant tous si souriants et si affables, elle se fit sévère et glacée. Cependant, elle devinait dans ce qui se passait autour d'elle quelque chose d'inexpliqué et de menaçant. Le silence prolongé du duc l'inquiétait plus qu'elle ne voulait l'avouer. Et l'attitude contrainte de ceux qui l'entouraient, quelques lambeaux de phrases qu'elle avait saisies au vol, certains silences subis quand elle approchait à l'improviste, une recrudescence de tendresse de la part des siens, avaient achevé de la mettre en défiance. Elle souffrit beaucoup. À cette nature fière et franche, l'équivoque était insupportable. Il était dans son caractère d'aller droit à l'obstacle et de l'attaquer de front. En cette circonstance, elle n'osa pas. Sa tendresse la rendit timide. Elle eut peur d'apprendre que le duc la trahissait, et honteuse pour celui qu'elle aimait, craignant d'être obligée de constater son indignité, elle s'abstint de questionner et garda un douloureux silence. Philippe la vit donc impassible et hautaine, accueillant ses timides hommages avec un dédain peu dissimulé et faisant attention à lui juste assez pour lui prouver que sa présence lui déplaisait. Suzanne, décontenancée, ayant vainement essayé, par quelques douces paroles, de détendre la bouche crispée de Mademoiselle de Beaulieu, s'était réfugiée auprès de Bachelin, qui la couvrait de sa paternelle affection. Les attentions gracieuses du marquis, visiblement gagnées par la grâce simple de la jeune fille, avaient trouvé Suzanne triste et découragée. Les illusions que la chère enfant s'était faites tombèrent en un instant. Elle vit le bonheur de son frère gravement compromis. Son précoce bon sens lui fit mesurer toute la distance qui séparait Philippe de cette hautaine et imposante Claire. Elle comprit qu'un événement imprévu pouvait seul rapprocher ces deux êtres si dissemblables. Cependant, elle ne désespéra pas, et naïvement, avec cette foi tenace des enfants, elle s'en remit à la Providence du soin de lever toutes les difficultés. La marquise, toute pleine des confidences louangeuses de Bachelin sur le compte de Philippe, enchantée de l'enthousiasme du baron, qui avait décidément accaparé le maître de forge, et vraiment surprise d'avoir rencontré à sa porte un homme tel que M. d'Herblay, s'était laissée aller à lui demander de rester à dîner au château. Foudroyée par un regard de sa fille, elle fit un retour sur elle-même et se demanda si elle n'avait pas été un peu vite dans l'expression de sa sympathie. Sa raison interrogée ne lui reprocha rien. Elle ne dut voir dans le mécontentement de Claire qu'un accès de subite sauvagerie. Du reste, M. d'Herblay offrit de lui-même à la marquise un moyen de prompt apaisement. Il refusa avec une convenance exquise, s'excusant de ne point profiter de la grande faveur qui lui était faite et prétextant le soin d'affaires accablantes. En réalité, il avait hâte de s'éloigner. Les deux heures qu'il venait de passer sur cette terrasse, écoutant le baron sans le comprendre, les tempes serrées comme par les mâchoires d'un étau, le cerveau martelé par des pensées tumultueuses, avaient été pour lui un cruel supplice. Il voulut absolument s'y soustraire. Cette entrevue, si impatiemment attendue et dont il se promettait tant de joie, fut un des plus durs moments de sa vie. Et découragé, abattu, prêt à renoncer à ses ambitieux projets, il prit congé des hôtes du château. Claire ne parut pas attacher plus d'importance à son départ qu'elle n'en avait prêté à son arrivée. Elle resta, dédaigneuse et muette, répondant à son respectueux salut par un léger mouvement de tête. Juste ce qu'elle eût accordé à un fournisseur. La retraite de Philippe eût singulièrement ressemblé à une déroute si les alliés qu'il avait su déjà se faire dans la place ne lui eussent pas prêté un utile secours. Le baron montra, en cette circonstance, à quel point la passion peut modifier les caractères. Cet homme, si plein de réserve, accompagna M. d'Herblay jusqu'à la grille et lui secoua la main en le quittant, avec la vigueur, le laisser-aller d'un compagnon du Tour de France. Le marquis, lui, suivait Suzanne, éprouvé, par les graciosités qu'il prodiguait au frère, tout l'intérêt qu'il prenait à la sœur. Bachelin, son inamovible serviette sous le bras, fermait la marche. À la petite porte du parc, son cabriolet, attelé d'un vieux cheval gris, qui broutait philosophiquement des feuilles de coudrier, l'attendait. Il y fit monter Philippe et Suzanne pendant que le baron poussait la prévenance jusqu'à tenir le bidet par la bride, précaution d'ailleurs bien inutile, et que le marquis échangeait un dernier sourire avec la jeune fille. Bachelin passa son fouet sur le dos de son cheval. Le cabriolet s'ébranla et le baron et le marquis crièrent avec une touchante unanimité « Au revoir !» Philippe, d'une voix tremblante, répondit par un « Jamais !» qui se perdit heureusement dans le bruit de ferraille qui accompagnait la marche de la voiture. Le notaire s'était retourné brusquement. « Jamais » répéta-t-il. « Jamais ? Ah ça, mon bon ami, est-ce que vous perdez la raison ? Et pourquoi ne vous reverrait-on jamais à Beaulieu ?» Philippe, questionné, cessa de se contenir et, ouvrant son cœur, il en laissa couler librement le flot amer de ses désillusions. À quoi bon persévérer dans une entreprise qui était fatalement destinée, tout l'indiquait, à échouer misérablement? Il se préparait des humiliations imméritées et des chagrins cuisants. Autant valait renoncer tout de suite et couper le mal dans sa racine avant qu'il eût pu s'étendre. « Eh bien, mon cher, interrompit Bachelin avec ironie, qu'est-ce que vous espériez donc? La violence de vos regrets me donne à supposer que vous aviez de bien grandes prétentions. Pensiez-vous que mademoiselle de Beaulieu allait de but en blanc vous faire des avances comme une grisette à un étudiant? Dans le monde où vous venez de pénétrer, mon cher ami, les sentiments se traduisent habituellement par des nuances d'une délicatesse extrême. Il n'y a ni enthousiasme violemment ressenti, ni antipathie nettement déclarée. Tout se fait avec correction et tenue. Vous avez du premier coup obtenu des résultats incroyables. Les hommes ont été fanatisés, le marquis est votre ami et le baron veut être votre préparateur. La marquise, enfin, entraînée par la passion générale, vous invite à dîner dès le premier jour, comme on fait pour un ami de 20 ans, et vous vous plaignez? Mais vous êtes injuste entre tous les hommes. À vrai dire, mademoiselle Claire vous a fait froid de mine. La belle affaire, il n'aurait plus manqué qu'elle vous sautât au cou. Ah, vous allez vite en besogne, vous! Hier, vous ne rêviez rien de plus doux que le bonheur de la voir, de l'approcher pendant quelques instants. Vous venez de passer 2 heures auprès d'elle et vous poussez des interjections désespérées, vous accusez le ciel et la terre, et vous ne voulez plus reparaître dans la maison. Vous êtes insensé. D'abord, vous ne pouvez pas vous abstenir de retourner à Beaulieu, sous peine de passer pour un homme fort mal élevé. Et puis, est-ce que vous auriez la puissance sur vous-même de ne pas aller faire vos dévotions au pied de cette adorable Claire? Ah, mon cher, vous êtes bien heureux d'aimer. Vous êtes jeune, pleurez, souffrez, c'est ce qu'il y a de meilleur en ce monde. Il n'y a même absolument que cela, croyez-en un vieil homme qui, comme notaire, a reçu bien des confidences depuis 40 ans et qui, lui-même, à l'heure présente, ne regrette qu'une chose. » Bachelin, la figure animée, les yeux brillants, allait sans doute laisser échapper quelque aveu précieux à enregistrer, mais ses regards tombèrent sur Suzanne, qui, tout en l'écoutant attentivement, effeuillait les pétales d'une admirable rose cueillie par le marquis sur la terrasse de Beaulieu. Le notaire s'arrêta brusquement et, allongeant un vigoureux coup de fouet à son bidet qui trottinait la tête entre les jambes, « Croyez-moi, mon cher ami, retournez chez la marquise. Mademoiselle Claire aura prochainement de cruelles épreuves à supporter et son attitude vis-à-vis de vous pourra être singulièrement modifiée par les événements. Ah, déjà, vous ne dites plus jamais. C'est un progrès. Demain, vous direz toujours. Mais nous voici arrivés à Pont-Aven. Je n'entre pas avec vous. J'ai de la besogne pressée à donner à mes clercs. Allons, bon appétit et voyez tout en rose. » Bachelin, ayant donné une dernière poignée de main à Philippe, ayant galamment baisé les doigts de Suzanne, enfila rapidement la principale rue du Bourg et disparut bientôt à l'angle de la grande place. Philippe poussa un soupir, ouvrit la petite porte de la cour et, le front penché, suivi de sa sœur qui respectait sa silencieuse tristesse, rentra dans sa maison qu'il avait, 2 heures plus tôt, quittée, le cœur palpitant d'espérance.